Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Airbnb, Alstom, Booking, voilà quelques-unes des sociétés qui ont des activités économiques dans les colonies israéliennes. Elles font partie d'une longue liste publiée hier par l'ONU. Israël a très vite réagi, on vous explique.
L'épidémie de coronavirus n'est pas sans conséquences pour l'économie hongkongaise. Beaucoup de magasins sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Reportage à suivre.
Patrick Balkany est libre mais affaibli. Le maire de Levallois-Perret est sorti hier soir de la prison parisienne de la santé. Celui qu'on surnommait le baron des Hauts-de-Seine a fait une croix sur son destin politique.
Et puis, 3 mois après l'aqualte à la montée des eaux, notre correspondant en Italie a pu constater les dégâts à Venise, dans la crypte de la basilique Saint-Marc.
Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Santé, l'augmentation des tarifs des mutuelles complémentaires est-elle inévitable? On posera la question à Jean-Paul Demain, il est professeur de sciences économiques à l'université de Reims-Champagne-Ardennes.
Israël ne cache pas sa colère. L'ONU a publié hier une liste. Dessus figurent 112 entreprises ayant des activités dans ces colonies situées en territoires palestiniens occupés, colonies considérées comme illégales par le droit international. On y trouve par exemple Airbnb, Expedia et TripAdvisor. La plupart ont leur siège en Israël. Une mesure symbolique mais qui provoque des secousses, Frédéric Mettezo.
La liste était attendue depuis 2016, crainte par les Israéliens, espérée par les Palestiniens. Les deux parties ont mis à peine quelques minutes à réagir après ce geste misérable selon Benjamin Netanyahou, ce jour sombre selon son rival politique Benny Gantz, ce premier pas pour restaurer l'espoir selon l'OLP. C'est un échec pour Israël. Après une série de succès, Donald Trump s'étant aligné sur les positions israéliennes les plus dures sur l'Iran ou la Palestine. Pourtant, il s'agit d'une mesure symbolique. La publication de cette liste n'impose aucune sanction contre les entreprises concernées et voilà plus de 50 ans que le Conseil de sécurité a condamné en vain la colonisation israélienne. Mais pour les organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch, cette liste va légitimer et crédibiliser les appels au boycott des colonies et d'Israël. En mai dernier, le français Alstom, sous pression, a renoncé à l'appel d'offres pour la prolongation du tramway de Jérusalem.
Frédéric, on se dirige vers la pire catastrophe humanitaire du conflit en Syrie, d'après une ONG. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a demandé hier une trêve immédiate dans la région d'Idlib, théâtre d'une offensive du régime syrien et de son allié russe. Environ 700 000 hommes et femmes ont été déplacés, selon l'ONU. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Le gouvernement chinois a démis de ses fonctions le directeur du bureau des affaires de Hong Kong. On l'apprend ce matin. C'est l'un des plus hauts responsables du pays à perdre son poste depuis le début de la vague de protestations en juin dernier dans l'ex-colonie britannique. On reste à Hong Kong où les autorités viennent d'annoncer la fermeture des écoles jusqu'au 16 mars. Les cours auront lieu sur Internet. Les mesures visant à contenir l'épidémie en incitant les gens à rester chez eux se font fortement sentir sur l'économie. Sur place, Florence de Changy.
Malgré la fermeture des écoles, la restriction des heures d'ouverture des services administratifs et nombre de magasins indiquant fermés jusqu'à nouvel ordre, les rues de Hong Kong ont repris un peu d'animation. Mais le moral n'y est pas, l'économie est morose, notamment pour les commerçants comme le fleuriste Gordon.
Mes affaires ont chuté de moitié. Les gens restent chez eux et ne veulent pas dépenser d'argent. Normalement, pour la Saint-Valentin, j'ai toujours eu beaucoup de commandes, mais là, seulement la moitié. D'ici 2 mois, je vais sans doute devoir fermer ma boutique.
Pour la jeune agent immobilier Nancy, la situation n'est pas trop grave car elle est payée à la commission. Mais ce n'est pas le cas de la plupart de ses proches.
Mon frère, par exemple, il travaille dans un restaurant et il a dû arrêter pendant 2 à 3 semaines. Sa femme aussi n'a plus de travail pour 2 semaines et donc pas de salaire. Mais ils ont avec eux les enfants, la belle-mère. Comment peuvent-ils s'en sortir? À Hong Kong, le loyer est un gros problème. Sans revenu pendant 2 à 3 semaines, cela devient difficile pour n'importe quelle famille.
Pour faire face à la situation, le gouvernement est fortement incité à faire une distribution générale de 10 000 Hong Kong dollars, environ 1 200 euros, à tous les citoyens du territoire, sans attendre l'annonce du budget.
Et comme à Hong Kong, en France, des patients guéris commencent à sortir de l'hôpital. Hier, 2 des 11 personnes hospitalisées dans l'Hexagone ont pu rentrer chez elles. Rappelons que le coronavirus, officiellement appelé Covid-19, a tué plus de 1300 personnes en Chine. 44 nouveaux cas ont été détectés sur le paquebot de croisière en quarantaine au Japon. Une commune du Vietnam vient d'être placée en quarantaine. C'est la première du pays à subir ce traitement. Plus de 2 ans après l'assassinat d'une journaliste maltaise, le parquet national financier français a ouvert une enquête. Le but, vérifier si les activités économiques d'un suspect sur notre territoire ont pu servir à corrompre des responsables de l'archipel. Cette affaire a poussé le Premier ministre à la démission, accusé d'avoir protégé ses collaborateurs dans l'enquête. La journaliste enquêtait sur la corruption à Malte.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Patrick Balkany est en liberté.
Le maire LR de Levallois-Perret est sorti de la maison d'arrêt de la santé hier soir après 5 mois de détention et quelques séjours à l'hôpital. Il souffre d'une grave pathologie digestive et d'une dépression. Son état préoccupant est difficilement compatible avec la prison, ce qui a poussé la cour d'appel de Paris à le libérer. Il reste encore 2 décisions à venir dans les affaires de blanchiment et de fraude fiscale. Son marathon judiciaire a précipité la fin de l'histoire politique de cet homme de droite, Florence Turm.
Le 13 septembre dernier, la décision du tribunal correctionnel de Paris tombe comme un couperet pour le maire de Levallois. Il est condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Mandat de dépôt à l'audience, Patrick Balkany repart entre 2 gendarmes pour la prison de la santé. Et c'est Isabelle Balkany qui annonce en décembre la candidature de son époux au municipal de 2020. Entre-temps, les demandes de mise en liberté se multiplient, toutes refusées en raison d'un risque de fuite majeur souligné par la justice. Toutes sauf une, mais assortie d'une caution de 500 000 euros que Patrick Balkany affirme ne pas pouvoir payer. Il apparaît très affaibli au premier jour de son procès en appel, hospitalisé dès le lendemain, comme il le sera à plusieurs reprises durant ses 5 mois de détention. Isabelle Balkany se retrouve seule face au juge avec des demandes récurrentes pour alerter la cour sur l'état de santé de son époux. La cour qui a finalement accepté la nouvelle demande de mise en liberté de Patrick Balkany dès la fin des plaidoiries hier. Le maire de Levallois attendra donc libre les 2 décisions de justice à venir, les 4 mars et 22 avril prochains. Dans le volet blanchiment de fraude fiscale, le parquet n'a pas cette fois requis son incarcération immédiate, mais toujours une peine de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Le couple Balkany a déjà, cela dit, renoncé à se présenter pour un 6e mandat à Levallois.
Et Patrick Balkany devra pointer 2 fois par mois à la gendarmerie, résider au moulin de Giverny. Il a interdiction de quitter le territoire français. 2 hommes sont poursuivis pour avoir usurpé l'identité du ministre Jean-Yves Le Drian. 10 et 14 ans de prison ont été requis à leur encontre hier à Paris. Il se faisait passer pour le ministre au téléphone et contactait des dirigeants, des chefs d'entreprise, des ONG, en réclamant une aide financière pour des prétendues opérations secrètes de l'État français. Ils ont empoché 55 millions d'euros. C'est de la communication pour les uns, un réel engagement pour les autres. Emmanuel Macron est encore aujourd'hui dans le massif du Mont Blanc, où il doit annoncer des mesures pour protéger ce dernier et son écosystème. Il va constater par lui-même la fonte de la mer de glace menacée de disparition dans les prochaines années, comme l'explique Geoffrey Klein, chercheur en climatologie, auteur d'une thèse sur l'évolution de l'enneigement des massifs alpins.
Si on regarde sur de long terme, le glacier est effectivement en train de fondre. Il a déjà perdu entre 30 à 40% aussi bien de sa surface que de sa longueur depuis la fin du 19e siècle. Et effectivement, la plupart des glaciers alpins dont fait partie la mer de glace risquent de disparaître d'ici la fin du 21e siècle. Certaines études montrent que environ 80% des glaciers alpins risquent potentiellement de disparaître d'ici la fin du 21e siècle. Oui. Il existe, au niveau de l'enneigement en tout cas, il existe des appareils qui permettent de mesurer toutes les demi-heures la hauteur de l'enneigement à des points précis. Et on a des relevés sur plusieurs décennies qui permettent de quantifier cette évolution de hauteur de neige sur une saison et donc comparer cette évolution au fil des années. Et on s'est rendu compte à l'échelle du massif alpin que globalement, à des altitudes au-dessus de 1000 voire même 2000 mètres d'altitude, le manteau neigeux se réduit fortement, notamment depuis les années 70-80. Et puis ça a aussi une influence du coup sur la fonte du permafrost, c'est-à-dire en fait toute l'eau qui est infiltrée entre les roches, qui est gelée en permanence au-dessus de 2000-2500 mètres d'altitude. Ça fragilise les roches et ça provoque des éboulements comme on peut des fois observer du côté de la voie normale du Mont-Blanc. C'est des phénomènes qui ont tendance aussi à devenir de plus en plus fréquents.
Geoffrey Klein, invité du journal de 22h hier de Pauline Renoir, a réécouté en intégralité sur notre site franceculture.fr. 3 mois après l'Acqua Alta en Italie, quels dégâts à cause de ces marées hautes. La nuit du 12 ou 13 novembre dernier, à Venise, l'eau est montée jusqu'à 1,87 m, quelques centimètres en dessous du record de 1966. Les dommages sont estimés à 5 millions d'euros. Et parmi les lieux qui ont été inondés, on peut citer la crypte de la basilique Saint-Marc. D'habitude fermée au public, Bruce de Galzin a pu la visiter pour France Culture.
Les colonnes et les murs roses et beiges, l'arche qui protégeait les reliques de Saint-Marc ne semble pas porter de stigmates, car on ne voit plus les dégâts à l'œil nu, mais on peut les toucher. Caterina Sopradassi est guide, elle nous décrit le travail délicat des restaurateurs de la crypte.
Ils sont en train d'utiliser des matériaux pour désaliniser les colonnes et les murs aussi, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des briques. Et vous voyez que si on touche, on sent vraiment la brique très friable, là voilà. Le sel commence à l'intérieur des murs.
L'eau salée est entrée par l'arrière de la basilique, par une petite fenêtre emportée par la force du courant. Des travaux sont en cours pour renforcer cette partie, mais l'administrateur de la basilique Saint-Marc, Pier Paolo Compostrini, veut également construire une barrière imperméable en verre transparent autour de la basilique.
On lance ce projet parce qu'on est exaspéré devant la lenteur des autres projets. Si on avait eu le Mosè l'année dernière, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé. Je peux vous assurer qu'être ici et voir l'eau à plus d'un mètre au niveau de la taille, cela fait pleurer.
Les travaux devraient débuter le mois prochain pour que la barrière soit construite avant l'automne, la période des marées hautes.
Prudence dans le Calvados et la Manche. Les deux départements sont en vigilance orange pour des vents violents. Attention également au risque de vagues submersion comme dans la Somme et en Seine-Maritime. En Corse du Sud, plus d'alerte mais toujours cet incendie. Les pompiers demandent plus de moyens face à la multiplication des feux d'hiver. Des milliers d'hectares de végétation sont partis en fumée ces derniers jours. Vous l'aurez compris, le temps est agité aujourd'hui. Il fera au maximum 9 degrés à Lille, 12 à Paris, 13 à Lyon et 10 à Strasbourg. Comptez 14 à Bordeaux et 15 degrés à Nice, Guillaume.